Indestar.
Bonsoir à tous, vous écoutez Krypton sur Indestar. Et il est 22h.
Ouais. Oh oui.
Oui.
Ouais. Ouais, Scott Pilgrim. Ouais.
Nom de Dieu.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
On est venu, on l'a vu, il a eu un truc.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Tu crois que je sais pas m'envoyer en l'air?
Le monde se divise en deux catégories.
Il faudrait chier de me répondre, c'est une espèce de pétasse.
Ah merde, alors comment on
dit ça? Merde alors,
but alors, noir.
La séance va commencer avec Krypton, décryptons ensemble l'univers magique, engagé,
hilarant,
sombre,
intrigant,
angoissant du cinéma.
Jusqu'à 23h, on se fait une toile sur Indestar.
Bonjour, bonsoir à tous ceux qui écoutent cette émission dédiée au 7ème art, une émission déjà culte sur Indestar. Pour ce podcast, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thomas. Salut Thomas.
Salut Galen.
Ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, ça va très bien. Une bonne soirée, une bonne fin de soirée pour annoncer le début du week-end. J'ai Teddy.
Ouais, bonsoir.
Ça va Teddy?
Ouais, toujours.
Okay. Et toujours à ma droite, j'ai Jolan qui est à la console. Bonsoir, bonsoir Jolan.
Et toi aussi t'es là?
Oui, oui, moi aussi je suis là, Galen, pour l'émission Krypton, dans laquelle on parle d'un film, et seulement d'un film. Mmh. On vient dire quelle séquence, quel moment nous a marqué dans ce film. On vient se mettre à la place de personnage à un moment donné, puis je viens faire un quiz sur le film ou raconter des anecdotes autour du film. Et pour terminer, on fait un point actu sur les sorties du mercredi ou si vous voulez parler d'un film qui vous a marqué en ce début d'année.
D'accord.
Voilà.
Wow, problème.
Et avant de commencer, bah, on va envoyer une petite musique. Mmh. Et tout d'abord, je vais...
Donc, je parle.
Non mais je parle en off là exprès pour.
D'accord, ah, il l'a fait exprès.
Ouais.
Tu dois vaincre cette ex maléfique.
T'as cette ex maléfique?
Bingo.
Prépare-toi à combattre. Et je dois. Je dois vaincre tes sept ex maléfiques.
C'est bien ça.
Ah merde.
Prépare-toi à crever.
Quoi? Mois de neuf. Ça va? Il a l'air sympathique.
C'est pas grave. Tant pis.
Pardon.
Donc spécialement. Non, il y a un souci, c'est pas grave. Donc spécialement, le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin, et pour cette Saint-Valentin, on va parler d'un film qui parle d'amour quand même.
Ouais, oui, Scott Pilgrim, évidemment.
Scott Pilgrim.
Mais avant, est-ce que je peux te poser une question?
Vas-y.
Vas-y, je l'ai posé dans Peck Avenger hier, je l'ai posé tout à l'heure dans Vita Conso.
Ah, c'est qu'est-ce que je fais pour la Saint-Valentin?
Est-ce que t'as fait quelque chose?
Non.
Non, même pas.
Non, j'ai même pas fait un petit carpe diem pour dire, pour aller voir quelqu'un ou lui dire que je l'aimais ou pas.
Ouais.
Non, j'ai rien fait.
D'accord. Et toi, Thomas?
Moi, je passe...
Mon tour.
Je vais faire comme Jolan, je vais prendre un pot de glace et je vais devant Netflix.
D'accord.
Voilà, je
vraiment.
Suis
c'est
avec
bon plan,
Matrix,
ouais.
Tu vois, voilà. C'est...
Matrix?
Ouais, c'est je me refais la trilogie.
C'est cool. D'accord.
C'est très
vous avez des programmes
chargés,
pour la Saint-Valentin. Ouais. Voilà. Et comme tu disais, on va parler d'un film en rapport avec l'amour, Scott
l'amour
Pilgrim.
Et surtout les jeux vidéo. Donc on viendra en parler dans l'émission, vous en faites pas. Avant, on va lancer une musique.
Ouais.
Et la bande-annonce va suivre. Donc à tout de suite.
Si tu veux qu'on sorte ensemble, tu dois vaincre mes sept ex maléfiques.
T'as sept ex maléfiques?
Bingo.
Prépare-toi à combattre.
Et je dois me battre. Je dois vaincre tes sept ex maléfiques.
C'est bien ça. Prépare-toi à crever.
Quoi?
Quoi de neuf? Ça va? Il a l'air sympathique.
Je vais le pulvériser.
On a tous un passé.
Ouais, mais mon passé n'essaie pas de me massacrer toutes les 5 minutes.
Scott Pilgrim.
La prochaine fois, peut-être que tu pourrais éviter de craquer pour la fille qui a 11 ex maléfiques.
Seulement 7.
Oh, alors ça va.
Ah, quelle superbe bande-annonce, ça met bien dans l'ambiance.
Oui. Oh,
donc, comme je fais d'habitude, avant de commencer, je dédie cet épisode à mon ex.
Ça, d'habitude, tu le fais pas. C'est pas ton ex que tu...
Non, c'est pas mon ex, mais je le dédie toujours à quelqu'un, l'épisode.
Ouais,
et puisque là, c'est l'occasion, c'est la Saint-Valentin, et que dans le film,
il
y a des ex maléfiques, là...
Elle est maléfique, ton ex?
Oui.
Est-ce que t'en as eu 7, du coup?
Des ex?
Ouais.
Non.
Non, je vais.
Non, non.
Thomas.
Ou alors ça.
Je serai le seul à oui alors.
Donc, voilà, aujourd'hui avec ce film, je vous invite à entrer dans l'univers du jeu vidéo.
Ouais.
On va pas spécialement parler du jeu vidéo, hein, mais ce qu'il y a dans Scott Pilgrim, c'est que c'est rempli de références.
C'est ça.
À cet univers
genre
de musique 8-bit ou des bandes d'arcade. Et voilà. Donc je vais demander à Thomas de bien nous faire un petit résumé du film.
Du film, carrément.
Ah ouais, du film. Ah là là. Je vous fais un petit synopsis.
Terrible pression.
En français, sans être et sans avoir. Et tu fais un synopsis correct, hein, comme on a appris.
Pas de du coup.
Voilà, parce que... Avec
alors
Thomas,
du coup
voilà. C'est les règles qu'on a à l'ESCAT, à l'école de cinéma à Tournor. C'est de ne pas employer certains mots comme genre, du coup, en gros.
Et moi,
alors,
j'ai OK aussi.
En plus. Du coup, en gros...
tu
alors,
sors.
Scott Pilgrim.
5 pompes.
Scott Pilgrim, c'est l'histoire de Scott, un jeune dans la vingtaine, qui rencontre Ramona un beau soir alors qu'il sort déjà avec une jeune étudiante nommée Kim. Et il tombe épais.
Non, Knive.
Time, ouais.
Kim, c'est son
c'est pas pareil.
Pardon, je mélange les prénoms, c'est une maladie chez moi. Ouais. Donc il rencontre Ramona alors qu'il sort déjà avec Knive et il tombe éperdument amoureux de Ramona et il trompe donc Knive avec Ramona. Et c'est ainsi que le bordel commence puisque... Eh bien, Scott, pour réellement sortir avec Ramona, va devoir vaincre cet ex maléfique de Ramona. Et donc, voilà, il va...
C'est cet ex maléfique qui veut contrôler le destin de Ramona.
Oui, voilà.
C'est exactement. Ça, à cause d'un en particulier, ouais. Qui est le chef des ex maléfiques.
Ouais, celui qui a créé cette
ligue.
Cette ligue des ex maléfiques.
Ouais. Ouais.
Donc, bah, pour commencer, je vais vous parler du doublage. J'adore le doublage VF. Donc ouais. Pour Michael Cera, c'est Hervé Groul qui est le doubleur officiel de Michael Cera. Voilà, j'ai pas d'autres
d'accord.
Sujets, d'autres choses à vous dire sur lui. Mm-hmm. Mais alors pour l'antagoniste du film qui est joué par Mark Webber, lui il est doublé par Franck Lorrain qui a pu notamment faire les voix de Ryan Reynolds dans Life Origin d'Inconnu ou la voix de Rami Malek dans La Nuit au Musée ou encore Ryan Gosling dans Drive.
Donc voilà, je pense que...
Ouais, il est connu pour ça, mais je pense que dans Drive, il n'a pas dû dire beaucoup de choses puisque le personnage ne parle pas énormément.
Il est muet.
mais il y a toujours une voix, moi, qui retient mon attention, et là, c'est celle de Alexis Thomasian qui prête sa voix ici à Kieran Culkin, qui joue le coloc de Scott Pilgrim. Mm. Et Kieran Culkin, mais c'est le frère de Macaulay Culkin, qui joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Donc lui, il interprète le colocataire homosexuel de Scott.
Il est génial ce type.
Ouais. Et Alexis Thomasian, c'est pas n'importe qui dans le monde du doublage parce que vous avez sûrement déjà entendu sa voix divine, par exemple dans Kick-Ass, puisqu'il fait la voix de Aaron Taylor Johnson. Ah. Ou encore, si vous êtes fan de Scrubs comme moi, vous l'entendrez prêter sa voix à Zach Braff durant 8 saisons. 9 saisons, pardon. Mais pour moi, il y en a que 8. Ou bien, si vous regardez la série d'animation Le Dernier Maître de l'Air, vous pouvez l'entendre interpréter le général Zuko. Ou Fry dans Futurama.
On parle bien du film
Non, pas le film. La
série animée.
Je préfère oublier le film.
Oui, moi aussi.
Même si le réalisateur, quelqu'un de
le film était
très appréciable.
Ouais, le film est assez mauvais.
Ah ouais, il y a quand même des petites choses qui ont été tentées sur le film.
C'était parti pour être.
Il n'est pas totalement pourri.
Non, c'était parti pour être une trilogie, mais il n'a pas marché au box-office.
C'est pour ça qu'il n'y a eu qu'un 1 et c'est tout.
Voilà, c'est parti en cacahuète.
D'accord. Voilà.
Donc à tour de rôle, là, maintenant, je vais vous demander la scène qui vous a marqué.
Ouh,
Thomas, c'est dur parce que,
c'est
en fait,
dur, c'est dur.
Ouais.
Tout est marquant.
Ouais, mais oh, tout est marquant. Ouais.
La fin. Je pense la fin... Non, pas la fin.
Non, finalement, je change.
Finalement, je change. Je pense que c'est le moment dans la... avec la balançoire, quand ils sont dans la tempête de neige.
Ouais.
Du coup, spoiler alert. Où en fait, du coup, Ramona emmène Scott à travers une porte interdimensionnelle. On comprend pas trop ce que c'est. Mais du coup, c'est un moment plein de poésie, vraiment poétique qui me fait beaucoup penser à Eternal Sunshine dans son aspect
enneigé.
Voilà.
Mais il me semble qu'en fait la première fois où il rencontre Ramona, c'est dans son rêve.
Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est cette histoire de porte interdimensionnelle, on sait pas trop ce que c'est, et je trouve ça ultra poétique.
C'est comme ça que Ramona peut voyager finalement et faire ses livraisons puisqu'elle travaille pour Amazon.ca.
C'est ça.
Et j'adore la demande de Scott à son colocataire qui dit c'est quoi le site de Amazon.ca. Et son coloc qui répond Amazon.ca.
Et c'est vraiment ce moment-là est vraiment je trouve chargé d'émotions et c'est là où vraiment j'ai pris vraiment une grosse attache sur le personnage de Scott qui pendant tout ce qu'il y avait avant passe un peu pour un mec un peu con, un peu un connard, machin, et à ce moment-là, il prend vraiment de l'ampleur et de la profondeur.
Je suis totalement d'accord. T'es dit ?
Ben moi justement c'est encore avant parce que j'aime bien quand il est un connard. J'adore justement quand il sort avec Niz et que pour la première fois qu'il voit Ramona, j'aime bien ce passage, on a l'impression que genre
dans le lycée
c'est Niz, enfin voilà, et j'adore ce passage là puis j'adore aussi le passage de combat. Chaque fois quand il découvre un ex, il se dit oh putain encore un. Un peu ce genre de truc, cette petite routine qui s'installe après.
Si on parle juste en termes de combat, je pense que le combat de fin est, je pense qu'on préfère.
Ouais.
Ouais, c'est ça qui est incroyable.
J'aime bien celui avec
très
le vegan.
Ouais.
Ah ouais.
Vegan est très
il est épique ce type. Genre être vegan, ça donne des super pouvoirs.
Ouais, mon gars, tu le sais pas, tu le sais pas.
Mais t'es au-dessus.
Mais moi, mon gars, je vous défonce pas.
Il a des cheveux incroyables, Thomas.
Moi, je suis super saiyan. Y a pas de problème.
Moi aussi j'ai de beaux cheveux.
Voilà. Et on peut se demander souvent d'où lui vient tous ces
ses ex.
Non, pas ses ex.
Ses idées.
Non, le fait qu'il sache bien combattre.
Oui.
Et en fait, on peut le deviner puisque on m'a expliqué ça. C'est quand il danse avec Knife sur le jeu.
Oui.
Et bah c'est là qu'il apprend à combattre finalement.
Non. C'est ça. Il utilise des mouvements de dos.
Ouais.
Dos.
C'est ça.
Ouais, c'est sur une machine borne.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, en fait, c'est tellement. Enfin, il se passe pas son temps à expliquer les choses.
Non.
Juste, les choses sont comme ça, point. Et
ouais, voilà, il installe vraiment.
Et vu que dès le début, on les
a. Sa diégèse, c'est ça. Point barre.
Et dès le début, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans, mais en tout cas, voilà.
Ouais. Jolan, la scène.
Moi, la scène qui m'a marqué, c'était justement quand il combat un de ses ex. Une scène vraiment badass avec des effets spéciaux incroyables.
Lequel
Quand il combat les jumeaux.
Ouais.
Ah oui,
c'est jumeau à Kataganagi.
Ouais, ça m'a fait
Mais voilà, mais qu'est-ce que tu veux qu'on choisisse ? Tout est bien.
Ouais, c'est vrai, c'est ça. Tout est bien. Et,
pas beaucoup
et bien,
de bavure dans ce
film.
Pour moi, alors, je veux le dire, je crois pas qu'il y ait une séquence qui m'ait marqué plus qu'une autre. Je pense que le film, dans son ensemble, m'a marqué. Mais vraiment, les répliques, les effets spéciaux.
J'aime beaucoup aussi son coloc, pour le coup. J'ai oublié de le préciser. Il est génial à chaque fois qu'il parle, lui.
Ah, mais
j'aimerais trop avoir un coloc
comme ça.
Super
punchline.
Ouais.
Et moi j'adore quand il va piquer le copain de Scott.
Oui, c'est trop.
Et t'as Ramona qui fait bon bah je te laisse avec le couple homo. Il fait quel couple homo ? Et puis je les vois s'embrasser, et, le petit cœur qui apparaît. Alors, c'est très romantique aussi. Donc maintenant je vais vous demander quelle influence a pu avoir le film sur vous ? Quel impact il a eu ? Et bah moi je vous posais une question, tout simplement. À un moment dans le film, Knife se colore les cheveux en bleu comme Ramona et se met à sortir avec le jeune Neil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir rendre une ex-copine jalouse ?
T'es dit si tu me regardes,
Non, je te regarde, ouais, parce que t'es en face de moi. Oui. Mais...
Je te veux que je réponde.
Ah bah vas-y.
Bah, en vrai... Ah, j'ai pas fait exprès, mais... C'est, ouais, je sais pas si ça compte comme... On va dire que oui... Ouais, j'ai rendu jalouse une de mes ex sans faire exprès, mais du coup je suis retourné avec après, donc voilà. Je sais pas comment dire ça. J'étais tout seul, je venais de me séparer d'avec une fille, du coup je me suis mis à faire du sport, à regarder des films. Ouais, alors pas trop non plus. Hein, je suis pas un grand voilà. Mais je lui ai montré ma vie un peu tu sais, sur Snap ou genre de truc.
Tu n'allais pas dire ça.
Non.
Je lui ai montré ma vie. Autre chose que ta vie.
C'est comme ça que je l'appelle. Non, mais grosso modo, tu vois, j'ai essayé de montrer, ah ouais, je fais du sport et tout ça, ah, je sors avec des amis, et, ah tiens, je sors avec cette fille.
Ouais, genre, t'as une vie sociale, quoi.
Ouais, voilà. Et en fait, bah, du coup, elle est revenue toute seule.
Une vie sociale très active.
Ouais, mais c'est totalement ça. Elle est revenue, et du coup, bah, on est ressortis ensemble.
D'accord.
Cool. Je sais pas si ça compte.
Ok. Voilà. Thomas ou Jolan, est-ce que vous avez une anecdote
Thomas, je suis sûr que c'est intéressant.
Non, pas des masses.
Non. Moi, j'ai une anecdote justement. Enfin, c'était pas pour la rendre jalouse, mais je m'étais séparé d'elle depuis genre 6 mois. Et on est allé dans un resto avec justement ma nouvelle copine et on s'est croisé. Elle avait un autre mec. Je t'avoue que c'était un peu gênant comme scène.
Ah, triste.
Du coup, on n'est pas resté dans le resto, on est parti. Non, c'était vraiment trop malaisant. Voilà.
D'accord.
Et toi, Guylain ? Ah, tu vas pas y échapper.
Ouais, non, si, j'allais venir, mais je crois que je l'ai fait, mais inconsciemment.
Ah.
Ah, ouais, non mais vraiment, je crois que c'était pour vérifier si elle était vraiment amoureuse de moi ou pas. Et
un test.
Non, c'était pas un test, mais je voulais une preuve, tu vois, me dire est-ce que...
Ou bleu.
Ouais, voilà. Mais je l'ai fait sans le vouloir. Et
ça a marché ?
Ouais, je le sais. Et bon, tu vois, en fait, ce qui fait que maintenant on est détecte, c'est que là, c'est à cause de la distance, tu vois.
Ah ouais.
Donc, voilà. Chef. Thomas, t'as pas une anecdote croustillante à nous partager là-dessus?
J'aimerais trop qu'ils nous partagent une anecdote croustillante.
Non, franchement, j'ai pas grand-chose sur
d'accord.
ce point-là.
Non, mais
pas des os.
Pour revenir sur l'influence que peut avoir le film, moi, il y a une morale que je retiens, c'est que faut pas oublier que quand on veut vraiment quelque chose, bah, il faut se battre, tout simplement. Et là, il se bat littéralement pour avoir quelqu'un.
Il se bat, ouais. Mais je préférais me battre comme ça, tu vois, pour ouais. quelque chose.
Moi, perso, je sais pas, sur le film, en fait, ce que je retiens plus, c'est que, en réalité, l'amour n'est pas tant le sujet du film que... Enfin, l'amour, mais pas l'amour romantique, mais l'amour de soi, en fait, l'amour, le self-esteem en anglais.
L'estime de soi.
Ouais, l'estime de soi.
C'est, quand il arrive à la fin,
c'est surtout
bah,
ça,
le boss
en fait,
final.
C'est ça. C'est plus ça qui a retenu, enfin, pour moi, que je retiens que vraiment le fait de, voilà, d'avoir une copine ou quoi, c'est genre, tu veux une copine, très bien, mais d'abord commence à t'aimer toi-même avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre.
C'est exactement ce qu'on peut retenir du film.
Oui, ça me fait penser d'ailleurs quand il combat son double.
Oui.
À un moment donné, avant de battre le boss final, je crois. Non, c'est après.
Non, c'est après.
C'est juste après. Ouais. Il s'affronte lui-même en fait. Ouais. Mais du coup, il s'affronte pas.
Non, il
s'aime.
Vu qu'il est en paix,
il trouve
avec
cool.
Lui,
bah ouais. Il trouve cool son double.
Ils ont beaucoup de points communs.
Bah ouais.
Je trouve ça excellent.
Non,
mais
tout simplement.
Genre. Ils sont prêts à se battre, t'as un gros cut, et t'as Ramona avec Knife qui attend à l'extérieur, et tu le vois qui sort, genre, il
se bat dans
la main,
genre,
ouais.
Ouais.
Non, mais...
Allez, cool, on se revoit, on fait une bouffe.
Ouais. Il y a mangé des pancakes et tout. Ouais. Enfin...
C'est excellent.
Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment devant le film.
Ouais, il était cool.
Tellement. Ouais. En fait, on avait parlé dans Peck Avenger et ça m'a donné envie de le regarder. C'est même pas pour Krypton que j'avais regardé, en plus. Donc, pour te dire.
Non, mais moi, je vais vous dire que la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas aimé.
Ouais.
Quoi?
Ouais. Non mais vraiment, je suis pas rentré dans le film.
Désolé.
Ah bah oui.
Mais
en fait,
c'est ce qu'a dit Thomas
pour dire que on va devoir changer d'animateur. Merci.
Écoute, je fais ce que je veux. J'aime ou pas. Ok. Non, c'est vrai que la première fois, je crois que forcément, j'étais pas attentif et je l'ai vu en 2015. Donc voilà. Et quand j'ai su que c'était Edgar Wright, bah là j'ai fait vraiment l'effort.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Vraiment, mais ça te change la perspective du film, de savoir que. S'il y a un réalisateur que t'aimes ou pas qui le réalise.
J'ai pas cette vision-là.
D'accord.
Parce que normal, je pense qu'on est dans le même cas avec Johan. On connaît pas spécialement les réalisateurs derrière. Du coup, nous, on regarde le produit tel quel, ça c'est sûr.
Ouais,
on fait pas attention aux gens derrière.
Je pense que les spectateurs font plus attention aux acteurs qui jouent dans le film.
Et ça, c'est vrai que c'est important.
C'est ça qui fait la renommée du film. Hein.
Mais faut s'intéresser quand même un peu au réalisateur. Genre, je m'intéresse à Taika Waititi, parce que vous en avez parlé aussi. Mais, mais bon, en même temps, j'ai pas le choix avec les scats, comme le cinéma à tour. On est obligé de s'intéresser un peu. Et ouais, c'est vrai que tu t'intéresses au réalisateur et en fait, tu vas t'intéresser à ce qu'il fait parce que tu retrouves sa patte à chaque fois et c'est ça qui te plaît, dans les films. Donc, faut faire un petit peu attention. Edgar Wright. Ouais, putain, c'est et violent.
Ça me met dans tous mes états.
T'as allergique ou...
Edgar Wright.
Non, Edgar Wright, mais surtout qu'Edgar Wright a une patte, mais genre ultra reconnaissable, quoi. Enfin,
vous savez,
en termes de montage.
Ce qu'il a fait d'autre, à part Scott Pilgrim.
Il a fait la trilogie Cornetto. Qui contient Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et The World's End.
Parce que pour moi, Cornetto, c'est de la glace.
Oui, c'est ça. C'est la marque de la glace. Parce que dans chaque film, tu retrouves le parfum d'une glace Cornetto. Rouge pour Shaun of the Dead, bleu pour Hot Fuzz et vert pour The World's End.
Du coup, je l'aime ce type.
Il a fait Paul aussi.
Non, 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 c'est Simon Pegg et Nick Frost qui ont fait Paul.
Bah non, il était.
T'es sûr, mais... On a pas un bouton. Je t'ai cassé ou
c'est
de la pas. Parce que t'as préparé quand même une petite palette avec des petits bruits. Et je pense que là, un bon je t'ai cassé ou voilà.
Ah ben il faut scanner.
Non, non, normalement ils sont. On verra tout à l'heure ça pendant la pause.
Oui, on verra ça tout à l'heure.
Mais du coup, il l'a fait par contre sur Baby Driver.
Ah
aussi.
Là, oui.
Là, voilà,
là je vais pas te contredire.
L'expert, le meilleur expert que je connais, c'est Kéla.
Mais ouais, non, Baby Driver qui est un grand
film. Et puis le prochain qu'on attend avec impatience, c'est Last Night in Soho.
Un film d'horreur. Tu vas être bien ça.
Il sort l'année prochaine.
Sur l'année prochaine.
Ouais.
D'accord. Ça va se passer dans les rues de Londres, enfin.
Ouais, que demander de plus.
Ouais, ma foi. Voilà. Bah, que demander de plus, bah, peut-être une petite musique.
Une musique, bah,
une musique,
ouais.
Là,
le pied de la pompe.
Le pied de la pompe, ouais. Le grand mystère.
C'est ça.
Qui est nouveau dans la prod, en plus, je crois.
De quoi?
Il est nouveau dans la prod, ce groupe.
Les pieds de la pompe, ouais. Alors, on avait déjà des titres, mais, on a une nouvelle musique d'eux, et ça doit être celle-là, le grand mystère.
Ok.
Ah non, non, je crois que c'est une autre. C'est une autre, on a des nouveaux titres de la pied de la pompe, mais c'est pas celui-là. Mais écoutez déjà celle-là, elle est déjà bien.
Enfin le week-end, sortez les pop-corns, on vous offre le film.
Krypton, c'est jusqu'à 23h sur Indestar.
On arrive déjà à la moitié de l'émission. Ça va bien,
ouais.
C'est déjà... Ça va très bien.
Ah non, ouais. C'est déjà la moitié.
Mais c'est la moitié.
Ça va tellement bien que ça passe vite, hein, dis donc.
Allez, ouais. Moi, je suis content que vous soyez là avec moi.
Bah ouais. C'est cool. Et c'est encore mieux parce qu'on peut nous retrouver ailleurs en plus.
Ouais, c'est cool parce qu'on peut nous retrouver sur indestar.fr. Vous voulez réécouter et partager les podcasts.
Ouais.
Ou nous suivre sur Facebook et Insta.
Likez.
Likez et partagez.
C'est ça.
Et il y a Thomas là qui m'a soufflé un mot tout à l'heure en off. Oh. C'est que Thomas, il fait une rubrique sur le site indestar.fr.
Ah
qui s'appelle Indie Comics. Thomas, tu peux nous en dire un peu plus,
oui,
s'il te plaît.
Indie Comics sort lundi officiellement. Cool. Comme une rubrique sur plein de comics différents toutes les deux semaines. Vous allez voir une petite rubrique sur un comics. Là pour lundi, trois comics sortent d'un coup.
Waouh!
Et donc,
quel événement?
On a quoi, Gaëlan? Tu sais, toi, ce qu'on a?
Pour le premier, je crois que c'est A Time with Bullet.
Ouais, c'est ça, No One with Time with Bullet.
Le deuxième est sans rapport avec l'émission de ce soir.
Si peu.
Scott Pilgrim.
Oui. Et donc le troisième en exclusivité, ça sera Batman Damned.
Wow.
J'ai hâte de
et donc tout ça, tu les retrouveras sur indestar.fr, c'est
ouais.
Ça
Il y a une petite onglet dédiée à Indie Comics.
Ça sera écrit ou vocal?
Ça sera écrit.
Oh.
Et oui, c'est le premier blog de Indestar. Pour tous ceux qui préfèrent lire un petit article qui fait une petite page tranquillou.
Toutes les semaines.
C'est ça.
Toutes les deux semaines.
Toutes les deux semaines, pardon.
Encore mieux, vous pouvez lire Indie Comics et écouter Indestar en même temps.
Incroyable.
Que du bonheur.
Ouais.
Toujours plus
pas
de
meilleur,
contenu.
Pas meilleure recette du bonheur. Enfin,
sur
peut-être.
Indestar.
La joie de vivre et le jambon.
Oui.
Pas de jambon, pas moi.
Ah oui. Musulman.
Ah. Il a la force du Saiyan en lui, vu qu'il mange pas de jambon.
Y a quelque chose que j'ai oublié de préciser pour parler de Scott Pilgrim, c'est que c'est une adaptation de la BD de...
Scott Pilgrim
Comics, s'il te plaît.
Pardon, la BD, oh là là.
Pardon.
Grosse erreur. Non, le comics de Brian Lee O'Malley. Et j'en parle parce que Thomas m'a prêté le premier tome. Et quand je le lis, j'ai vraiment l'impression de voir le film.
Oui,
c'est ça qui est assez incroyable.
Donc le réalisateur est assez fidèle à le comics.
Ouais, parce que même il a... Edgar White a fait le casting avec Brian Lee O'Malley. Hein. Il a veillé vraiment à ce que ça soit.
Carrément, ouais.
Ouais.
C'est rare, ce genre de choses.
J'en parlerai tout à l'heure.
Brian Lee O'Malley était sur le plateau en plus.
Oui. En tant que consultant, comme Stephen King dans la plupart de toutes ses adaptations de films, dont il n'est jamais content, ça se comprend.
Et la petite anecdote, c'est que Brian Lee O'Malley a dit en interview que Edgar White l'a inspiré pour écrire la suite de ses romans, en fait. Mm. Genre, il y a des passages où il se dit putain, mais t'as une trop bonne idée, Edgar White, vas-y, je fais ça dans mon comics aussi.
Ils travaillent en duo,
c'est
beau.
Ce que porte l'un sur l'autre. Enfin,
bah ouais, c'est cool en vrai.
Un bon duo.
C'est ce qu'il faudrait faire.
Et ce qui est vraiment représentatif du comics dans le film, c'est quand il rompt avec sa copine, Knive, et qu'il se retrouve dans le bus. Et on a ces images qui vont de droite à gauche. Et ces images, ça représente vraiment les cases d'une BD. Et quand j'ai vu ce moment-là dans le comics. Et
c'était
fait,
même chose.
Mais c'est Edgar White, il a trop bien retransmis l'esprit du comics par des
cases. C'est la même chose, mais sans être la même chose en fait. C'est-à-dire que ça reprend vraiment l'esprit, mais en le mettant à la sauce Edgar White. Ce qui fait que c'est pas non plus juste du copier-coller, comme Watchmen par exemple de Snyder.
D'accord.
Ouais.
Mais du coup, pour Brian Lee O'Malley, ce qui est intéressant, c'est que. C'est que ce comics, enfin ce film, a vraiment lancé sa carrière et que entre temps il a fait, c'est un peu en même temps le l'artiste maudit quoi, c'est que cet éclat, ce génie a un peu camouflé tout le reste de ses autres comics en fait, parce qu'il a fait des comics incroyables par la suite, notamment Stuff Girl, ce genre de choses. qui sont mais, incroyables, mais du coup, à chaque fois qu'on va le voir, on va le voir pour Scott Pilgrim, du coup, il est un peu deg, quoi.
Mais tu recommandes les autres
bien sûr. Et j'ai envie de dire, je le recommande limite plus que Scott Pilgrim.
D'accord.
Parce que même si Scott Pilgrim est incroyable, les autres comics de Brian Lee O'Malley sont beaucoup plus profonds, en fait, sur les thématiques qu'il a commencé à aborder avec Scott Pilgrim. Mais du coup, ils sont beaucoup plus adultes, donc voilà.
À voir et... pour avoir sa petite préférence chez Brian Lee O'Malley.
Thomas aussi, il aime bien les trucs de genre.
Il
est très collé niveau Dark.
Il est très, très collé niveau comics.
Oui aussi.
Brian Lee O'Malley, c'est sûr que c'est jamais des thématiques très 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 réjouissantes. C'est tout le temps des questions assez dark, assez existentielles sur qu'est-ce que c'est de passer à l'âge adulte, qu'est-ce que c'est de vivre une relation amoureuse, qu'est-ce que c'est de s'aimer, ainsi de suite.
C'est pour ça que ça te plaît.
Oui, bah oui, bien sûr.
Thomas aime le dark.
Bon, pour reprendre l'émission, là, on va se mettre à la place des personnages et pour apporter une crédibilité à leur combat, les comédiens du film ont suivi un entraînement intensif durant quelques mois. Cette expérience leur a permis notamment de créer des liens en amont du tournage. Et là, je vais vous demander un instant que vous êtes acteur, est-ce que vous seriez capable de suivre un entraînement drastique pour entrer dans le rôle d'un personnage, ou bien vous choisissez l'option de facilité, c'est-à-dire que vous prenez plusieurs doublures, comme notre ami Chris Evans.
Bah, moi, franchement, sans problème, en vrai... Je veux pas dire j'ai déjà fait, bah non, parce que c'est pas exactement ça. J'ai pas suivi d'entraînement pour un rôle, parce que déjà j'ai pas eu beaucoup de rôles dans ma vie. Hein.
Ouais, et là, imagine, on te propose un rôle qui demande d'être musclé. Est-ce que tu.
Sans problème.
Ouais,
sans problème.
Tu vas à la salle de sport tous les jours.
Avec un objectif, aller à la salle de sport, c'est trop facile. Ouais. C'est y aller sans objectif. Ou alors se dire, je veux juste perdre du poids, ça marche pas en vrai.
Pas de masse.
Non, c'est compliqué.
Ça, ça t'apportera déjà quelque chose, c'est que tu te sentiras bien dans ta peau à la fin. Pour
ouais,
le film,
c'est ça.
Et
puis,
pour toi-même.
C'est ça. Puis t'as l'impression de t'investir pour quelque chose, en fait, juste pas pour perdre du poids. Enfin, voilà, je parle en tant que vécu. Puis j'ai aussi fait beaucoup de choses. Alors, pendant les films que j'ai fait en tant qu'acteur, on m'a pas demandé trop de compétences de combat, mais j'ai déjà fait pas mal de sports de combat. Du coup, j'ai utilisé.
En tant qu'acteur.
Voilà, c'est ça. J'ai utilisé quand même. Je me rappelle, on avait fait un tournage il y a longtemps où il y avait une scène de combat avec une fille qui s'appelait Apolline. Big up à toi si tu nous écoutes. Allez, Thomas, il s'en rappelle de cette Apolline.
Ah, oui.
On avait fait des super scènes. On avait été entraîné, coaché par un mec qui faisait de la capoeira en pro et il faisait du MMA aussi. Et ouais, il nous avait donné plein de trucs et ça donnait super bien. Enfin, au ressenti, quand je me faisais tabasser, ça donnait super bien.
Non, mais je trouve que les acteurs qui s'investissent vraiment là-dedans, qui cherchent à prendre du poids ou à se muscler et perdre du poids, c'est là que
profond respect.
Ouais.
Mais faut quand même faire attention, c'est dangereux.
Ouais, on en a parlé la semaine dernière. On citait Christian Bale,
l'acteur qui a joué Batman aussi.
Christian Bale, il y a Jared Leto. Enfin, faut faire attention.
Après, tu vois, genre prendre du poids et tout, enfin faire en sorte de ressembler au personnage, tu vois, en faisant de la muscu ou quoi, je trouve que c'est normal pour un acteur, enfin c'est la base, de toute façon, c'était pas acteur si tu veux pas faire ça.
Non, mais il y a quand même quelque chose de.
Faut
de
s'adapter.
De dangereux quand même là-dedans, tu vois, faut
être
suivi par
des
nutritionnistes.
Faut pas perdre 60 kilos d'un coup, quoi.
Mais après, après, quand tu passes sur le tournage et qu'il y a du combat et ainsi de suite, je pense que c'est pas. Tu dois être présent, genre, essayer de faire 2-3 coups et tout. Mais je pense que c'est pas ton rôle d'acteur à ce moment-là, ça va être le rôle d'un cascadeur. Ouais. Déjà parce que t'as une valeur beaucoup trop importante pour le tournage. Si t'arrives quoi que ce soit, le tournage.
Ça bloque
annulé.
La prod.
Voilà, donc c'est la merde. Et surtout, ça sera limite moins bien si c'est toi qui le fais que si c'est une doublure parce que.
Qui est faite. Qui est quelqu'un qui est entraîné pour
ça
justement,
donc,
qui peut se permettre de
alors
se blesser.
Tu vires l'acteur principal et c'est la doubleur la vedette.
Enfin, moi, pour le coup, je pense que je choisis la facilité et je veux prendre des doubleurs.
C'est vrai?
Ouais, vraiment, j'ai trop la flemme. Trop la flemme en JT aigu là pour faire quoi que ce soit.
D'accord.
Ouais. Toi, Jolan.
Moi, en vrai, je pense que le corps humain s'adapte assez facilement, donc je pense que je suivrai le protocole qu'il faut pour soit devenir musclé ou même prendre du poids pour un rôle.
C'est ça. En sachant qu'après, ils sont suivis aussi, les acteurs, ils font pas ça tout seuls.
Ouais, bien sûr.
Ils ont de l'aide, entre guillemets, et c'est encore plus simple. En vrai, enfin, je sais pas.
Non, mais oui, clairement.
C'est pas faux.
Exactement, c'est pas faux. Donc, c'est encore plus cool, moi, je trouve.
Après, il y a beaucoup d'acteurs qui ont eu des séquelles physiques à cause de.
Faut pas jongler de trop, c'est ça, en vrai. Hein.
Ouais, c'est pas faux.
Il y en a beaucoup qui ont jonglé, du coup, forcément.
Il faut pas perdre 30 kilos, reprendre 50, et ainsi de suite, c'est dangereux. Et encore, parce que prendre du muscle, ça va. mais genre prendre juste du poids juste pour être un peu rond, ça tu vois, c'est faut pas trop et faut pas repérer, enfin faut pas jongler, voilà.
Je suis d'accord. Ouais, c'est pas faux.
C'est pas faux.
Ouais.
C'est pas faux. Ce que je trouve incroyable.
T'en as un troisième, dans... c'est pas faux si tu veux.
Ouais,
c'est pas faux.
Ce que je trouve incroyable aussi pour certains films, c'est qu'il y en a, ils vont essayer d'être limite des squelettes, quoi. Genre, je sais pas comment ils font pour perdre.
Ouais. Comme je jouais avec dans le dernier Joker.
Ouais. Bah, ils mangent une asperge avec un grand bol vide, grand bol d'air et c'est tout, quoi.
C'est bon l'air.
Oui.
Les connaisseurs.
Il y a un très bon documentaire sur Netflix justement sur
l'air.
Sur cette transformation des acteurs. Ah ouais. Oui. C'est tu peux me rappeler le nom, monsieur Galen?
Oh, ça réfléchit.
Putain,
tu as posé le col.
C'est pour nous.
Oh mon dieu.
C'est sur Netflix, c'est un documentaire avec Jim Carrey sur sa transformation pour le personnage de
le méchant de Sonic.
Non, pas le méchant de Sonic, de Moonland.
Moonland.
Non, pas Moonland.
Man on the Moon.
Man on the Moon.
Ah oui, Jim Andy.
Voilà, Jim Andy.
Ah oui, ok. Oui, oui, il rentre vraiment dans la peau du personnage jusqu'à vraiment embêter la prod, le réalisateur et les acteurs secondaires, quoi. Enfin,
il devient le personnage.
Il devient vraiment Andy Kaufman pour le rôle. Et tu sais plus si c'est Jim ou si c'est Andy.
Ah oui, à ce moment-là.
Parce qu'il a maigri beaucoup, c'est ça?
Non, il maigrit pas, c'est qu'il s'investit vraiment. En dehors du tournage, il est Andy, en fait.
Il y a la transformation physique, mais aussi la transformation mentale, en fait, des acteurs qui se fait souvent, en fait. C'est que on entend souvent les trucs sur le Joker de Jared Leto ou de, voilà.
Ou de Heath Ledger.
Ou de Heath Ledger, et c'est de là où c'est des personnages qui sont tellement investis dans leur rôle qu'ils ont besoin de cet investissement-là, qui deviennent le personnage qu'ils incarnent, en fait. Ouais. Ils incarnent un personnage. C'est une technique qu'on a vue à l'ESCAT, l'école de cinéma. En fait, c'est ce qu'on appelle le nouveau théâtre. C'est une technique de théâtre qui fait que tu ne joues pas le personnage, tu l'incarnes. Et du coup, tu vas beaucoup
toute
plus loin
vie.
Dans les...
Enfin, toute ta vie,
mais ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé, mais l'ancien Joker, je crois qu'il s'est tué parce qu'il était trop à fond dans son personnage. Ou...
Ça l'a un peu... Ouais. Je pense que le rôle semblait psychologique.
C'est dangereux aussi alors.
Ça, c'est dangereux parce qu'en fait, vu que tu incarnes le personnage,
tu restes coincé.
Tu peux rester coincé
jusqu'à un nouveau rôle et après, il faut
perdre
que tu changes de
rôle et ainsi de suite. Ouais. Et du coup, c'est des.
Bah, il faut du temps en fait pour en sortir.
C'est ça. C'est une technique qui te demande énormément
d'investissement personnel.
Et j'ai connu un acteur pro qui jouait un meurtrier en série et il me disait que genre pendant plusieurs mois, lui, sa préparation c'était.
Rester
tout seul chez soi, lire plein de documents sur les tueurs en série, voir plein de films de plein de séries sur les tueurs en série pour comprendre leur psychologie, comprendre comment ça marchait, etc.
Ah ça va, il a pas trop poussé à l'extrême
Après pendant plusieurs mois tout seul chez lui.
Ouais, mais quand tu commences à rentrer dans la tête et à comprendre comment ça fonctionne, t'as l'impression de toi agir comme un psychopathe.
T'as des séquelles après qui va se voir seulement, je pense.
Ça dépend en fait si t'apprécies.
C'est une grosse séquelle qui lui est restée.
Pour réussir à se détacher du rôle, c'est très dur.
Pour continuer dans la rubrique, je vais vous poser une dernière question, c'est quel est votre ex maléfique préféré? Et pour rappel, il y a en premier Matthew Patel, Lucas Lee, Todd Ingram, Roxy Richer, les jumeaux Katayanagi, et en dernier, il y a Gideon. Thomas, quel est ton ex maléfique préféré?
Moi, c'est Gideon.
Ouais,
mais
Gideon.
Parce que, enfin, c'est pas. En fait, c'est-à-dire que moi, vu que j'ai lu les comics, les trois tomes, je sais que dans les comics, Gideon est un personnage beaucoup plus travaillé que dans le film.
Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment le temps de développer ce personnage.
Même dans le film, il est vraiment intéressant comme personnage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le comics, il est présenté vraiment comme un double. Comme le double de Scott. C'est Scott qui a échoué à devenir ce qu'il est à la fin du film. Et c'est une personne pleine d'amertume, qui est coincée dans son passé, qui veut Ramona à tout prix. Même lui ne sait pas pourquoi, mais il la veut en fait, et pour une raison un peu perverse, inconnue. Même lui ne sait pas ce qu'il veut en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est vraiment un double de Scott dans toute sa splendeur.
D'accord. Tu dis?
Moi, ça repart sur le vegan.
Todd Ingram, qui est l'un des ex
maléfiques de Ramona.
De Ramona, oui, mais qui joue dans le groupe de l'ex.
Oui, c'est ça, dans le groupe de musique.
Le bassiste, non?
Parce que
bassiste,
Scott, il a une ex aussi, qui est une grande chanteuse.
Le groupe Clash at Demon Head. Ouais. Et t'as Envy Adams, qui est interprétée par Brie Larson. qui est la Captain Marvel. C'est Captain Marvel.
Ah ouais, mais je l'ai pas reconnu.
Ouais, donc tu vois, t'as Chris Evans, Lucas Lee, et t'as Brie Larson qui joue déjà dans un film.
Je l'ai pas fait.
Ouais. Ils ont quand même des grands acteurs.
Ouais.
Ouais, j'adore le vegan, putain, ça m'a fait trop délirer en vrai, genre, quoi, t'es un vegan, je suis un super saiyan, qu'est-ce que tu crois, j'ai des pouvoirs légendaires à l'école des vegans.
Le plus drôle, c'est quand la police vient l'arrêter. Ouais. Ça, c'est
police
drôle.
Des vegans.
Toi, Jolan, t'en as un qui...
Bah,
que
moi,
tu
y
préfères.
Celui qui m'a fait beaucoup rire, c'est l'acteur, comment il s'appelle
Chris Evans, Lucas Lee. Ouais. Moi, c'est le
avec toutes ses doubles.
Ouais, voilà, ça m'a fait marrer. Comment
c'est
il attaque en vrai.
Ouais, c'est ma doublure. Je laisse faire des plans d'ensemble quelquefois. Ouais, il y a une réplique avant qu'on le rencontre où t'as le colocataire de Scott qui regarde un de ses films et tu le vois dans une cabine de téléphone avec un flingue à la main et il a une réplique assez cool qui fait écoute, t'as intérêt à pas commander de pizza parce que où que tu sois, c'est moi qui te la livrerai.
Ah oui.
Et il raccroche comme ça et je trouve ça énorme.
C'est vrai qu'il y a des films,
juste à le gros cliché des films. Des blockbusters, quoi.
Ouais.
C'est très très drôle.
C'est vrai. Une petite dédicace pour Mathieu Patel, quand même.
Oui.
Il fait beaucoup rire.
Ouais. Le pirate, c'est à la mode.
Ah, ce qui m'a fait marrer. Ouais. T'as lu mon mail ouais, en diagonale. Là, ça l'a rendu furieux.
Il fait ouais, blablabla, Mathieu Patel, préparez-vous au combat. Ouais, bon, ok, c'est pas important. Mais.
Et toi,
moi, c'est Lucas Lee aussi, le skater, acteur, qui fait. Toi, Scott Pilgrim, il y a juste 2 secondes qui me séparent de toi. Voilà. J'adore parce que c'est une véritable caricature, même son collier de barbe, enfin. Même il a tatoué son logo de skate sur son torse. C'est quand il arrive, il arrive sur le plateau en skate, c'est lui qui dit action à la place du réalisateur.
Oui.
Tu sens que ce mec est tout permis, quoi. Voilà. Et je vais vous dire un truc aussi, de faire attention au prochain visionnage, c'est qu'on voit le numéro de chaque ex maléfique dans un plan du film.
Ah.
Ouais, genre pour Lucas Lee, on voit le 02 sur une des portières de voiture derrière lui.
Ah, oui.
Ouais. Mmh. Par exemple, pour Todd Ingram, il porte le chiffre 3 sur son t-shirt.
D'accord.
Pour Roxy Richer, c'est un peu plus compliqué, mais quand il rentre dans la boîte, on peut voir le chiffre 4 sur une des vitrines.
D'accord.
Après, voilà, je les ai plus en tête.
Sur les jumeaux, t'as genre 6 et 6 bis
ou... Non, t'as 6 et 7, hein. 5 et 6, pardon.
5 et 6, ouais. D'accord.
Et voilà, moi, ce que je trouve dommage, je vais revenir dessus, c'est pour les jumeaux, justement, je trouve qu'on n'en sait pas plus que ça concernant le passé de Ramona.
Il est passé très vite.
Ouais,
en fait, on a juste le combat, on n'a pas de mise en contexte.
Ça, faut savoir qu'en fait, c'est une...
Et c'est plus dans les comics, je pense.
En fait, non, même pas. C'est
même
une volonté de Brian Lee O'Malley, c'est-à-dire que...
De pas les développer.
Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, ces deux personnages-là, en fait, ils représentent un peu le... En fait, c'est
un passage à vide.
Ouais, c'est des personnages où en fait on s'en fiche. C'est plus eux l'important dans les comics. En tout cas, les ex-maléfiques disparaissent en fait.
C'était une expérience.
C'est ça. On n'a plus trop besoin de s'intéresser à eux. Par contre, on va du coup beaucoup plus s'intéresser à Ramona, Kim
et
Gideon, mais aussi dans Julie dans dans les comics. À ce moment-là, aussi beaucoup développé et ça permet en fait d'avoir Kim par exemple dans les comics, ça se fait kidnapper par les jumeaux.
Tu veux dire Knives?
Non, Kim.
Non, Kim qui est
la batteuse
de Sex Bob-omb.
Ah oui, l'ex de Scott.
Ouais.
Et, d'ailleurs, si vous êtes intéressé sur YouTube, vous pouvez trouver un court-métrage d'animation qui reprend en fait l'histoire qu'il y a eu entre Kim et Scott lors du lycée.
Ouais.
Mmh, super. Cool.
Voilà. Bon, voilà, vous avez...
Si, aussi, on a parlé de quasiment tous les ex, sauf de la fille.
Ouais, je te parlais de Roxy Richer.
Ouais.
Le point faible se situe derrière le genou.
C'est trop bon.
Ouais, tout simplement.
J'ai bien aimé aussi. Ah non, je peux pas l'affronter, c'est une fille. Va te casser la gueule, c'est tout.
Le combat, il est vachement dynamique. En vrai. Il est vachement bien
mis. Et là, pour une fois, c'est Ramona qui...
C'est ça,
oui, qui va guider Scott aussi pour le combat.
Oui,
c'est intéressant.
C'est drôle.
Voilà, donc... J'aime bien lancer parfois un cover du film là pour la radio, mais je vais juste vous conseiller là d'écouter la bande originale du film parce qu'elle est vraiment cool et elle est composée en partie par Beck, avec juste la musique Ramona par exemple.
Qui Beck?
C'est un compositeur, auteur américain.
D'accord.
Ouais. Mais de toute façon, dans tous les films de Edgar Wright, la musique est incroyable.
Beck.
Omniprésente. Enfin, surtout dans son dernier, en tout cas.
Oui, bien sûr.
Mais ça compte énormément. Genre, Shaun of the Dead, t'as Queen. Voilà.
D'accord.
Si, pardon. Pour pour The World's End, c'est The Doors avec Alabama Whiskey. Enfin, voilà. Il y a vraiment une bande originale recherchée dans ce film. Et
parce que Edgar Wright,
il n'y a aucun hasard laissé dans ses,
c'est ça.
Dans sa réalisation. Edgar
Wright est un vrai fan de vinyle. Je regardais une interview l'autre fois où en fait il disait qu'il avait écrit Shaun of the Dead en face d'un magasin de vinyle où il allait tout le temps quand il était gamin. Ouais.
Et du coup, moi, je vois les deux protagonistes en train de lancer des vinyles sur des zombies.
C'est ça, non, mais c'est totalement ça. Il disait, putain, j'ai écrit ça, mais genre, juste à côté. Genre, putain, mais attends, mais le vinyle et tout, mais vas-y, on fait ça et tout. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est une interview sur CNC, la chaîne américaine. Alors, c'est que en anglais, mais c'est ultra passionnant.
D'accord. Bon, bah, en parlant de musique, on va en écouter une. On va écouter Michael Jackson versus Eric Clapton, et c'est Billy Cocaine.
Jusqu'à 23h, décryptons ensemble le cinéma. Bienvenue sur Indestar.
On en arrive à la partie quiz, anecdote autour du film.
Ouais.
Tout va bien.
Oui, tout va bien.
Toujours, tout va bien.
Donc un petit quiz, c'est ça ?
Un petit quiz, là, pour l'instant, je sais que si je fais des quiz, Thomas va savoir la réponse, mais je vais vous laisser deviner. Est-ce que vous savez combien il y a de...
Il y a de 42.
Combien il y a de tomes de comics pour Scott Pilgrim?
T'as pas le droit de parler.
À part s'il trouve pas au bout de 15 secondes.
Je sais pas, je dirais...
Je sais pas... 17
Moins. Dit 10, non?
Moins
de 10.
6?
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais je crois qu'ils ont fait des rééditions.
Alors oui, c'est un peu une question entre guillemets piège, parce qu'il faut savoir qu'en fait, la première édition de Scott Pilgrim, c'était une édition sous format manga, en fait. C'était en noir et blanc, et vraiment sur la même taille qu'un manga. Et en fait, il y a eu d'autres éditions après, une édition plus sous format comics, donc un format un peu qui se ressemble un peu à la BD. Et celui-là était toujours en noir et blanc, et il comportait 3 tomes. Et là, récemment, ils ont fait une nouvelle édition, réédition.
Celle que tu m'as gentiment prêtée.
Exactement.
Un peu plus.
Sur manga, il y avait 6, c'est ça?
Et ouais. Oui, il y avait 6 tomes manga.
C'est la version la plus connue.
Maintenant,
en tout cas.
Ça va, j'ai raison alors.
Maintenant, quasiment.
c'est pas
une mauvaise idée. C'est maintenant la version manga est quasiment introuvable. Après, maintenant, les trois nouveaux tomes qui ont été édités sont sous format couleur, par contre, cette fois-ci.
D'accord.
Et du coup, ça rajoute vraiment quelque chose, la couleur, pour le coup.
Ok. Voilà, avec son mélange d'humour, de romance et de combat, le tout accompagné de références à la culture pop, populaire geek, elle n'a pas tardé à devenir une œuvre culte, adoubée notamment par Joss Whedon, le réalisateur du premier Avengers, ou encore Edgar Wright, qui en signe d'ailleurs l'adaptation.
Il me semble que Scott Pilgrim puisse faire un bide le jour de sa sortie.
Oui. Malheureusement, l'année de sa sortie, ça n'a pas fait un grand carton dans les salles. Pourtant, et c'est bien dommage, mais je pense que ça va être un film qui va devenir culte avec le temps. On va en parler dans...
C'est nos générations, en fait, qui ont...
Même cette année-là, ça va faire 10 ans qu'il est sorti.
Ouais, rien que les effets spéciaux, en fait, sont...
Oui, je pense qu'il va pas... Je pense que c'est un film qui va pas vieillir, quoi.
C'est vrai que tu peux regarder n'importe quoi.
Au bout du jour.
Parce que les effets spéciaux sont tellement cartoonesques et particuliers que, clairement, ça va...
Comme notamment quand on voit qu'un des personnages est désintégré, il y a un score qui apparaît. Et le personnage qui se désintègre en pièces de monnaie.
Ou encore c'est plus important, cool, la pi-barre.
La pi-barre, oui, oh, j'adore.
Quand il fait pipi, il y a une barre de pisse qui diminue, oui, c'est ça. C'est
exactement. Quand il est dans son appart. Ouais. Donc voilà, le réalisateur Edgar Wright dit avoir pris toutes les décisions concernant chacun des membres du casting avec l'accord et l'approbation du créateur, donc c'est-à-dire Brian Lee O'Malley, comme j'en parlais. Tout d'abord en début d'émission.
Effectivement.
Voilà. Donc c'est Edgar Wright qui a pensé assez tôt à Michael Cera pour incarner son héros, puisqu'il a découvert le talent du jeune acteur dans la série Arrested Development qui a commencé en 2003, dont il a suivi quelques épisodes pendant l'écriture de Hot Fuzz. Moi, je vous conseille de regarder quand même les 3 premières saisons de Arrested Development. C'est avec Jason Bateman, et du coup, Jason Bateman, il a pour fils Michael Cera dans la série. Et alors, Michael Cera, on le reconnaît pas, il est assez petit et il est assez obèse. Il a un peu de cou, quoi.
D'accord.
Voilà, on le reconnaît pas tout de suite. J'ai cru que c'était le frère de Michael Cera. Michael Cera.
D'accord.
Voilà. Mais non, c'était Michael Cera.
Oh, d'accord. En plus, à l'époque, il était vachement, vachement bankable, Michael Cera. Genre, il valait. Enfin, l'avoir en film, c'était. Dans son film, c'était avoir une tête d'affiche, quoi.
Ouais. Après, Superbad. Où il est aux côtés de Jonah Hill.
Ouais,
tu vois de quel film je parle, Teddy?
Oui.
Ouais, ok. Donc il y a de nombreux tournages qui ont lieu à Toronto, mais la plupart sont des films américains. choisissant le Canada pour réduire les coûts du tournage. Donc Scott Pilgrim
toujours,
est l'un des rares films à situer l'action dans la ville même et en dévoiler donc certains aspects intimes comme des restaurants populaires, la plupart soufflés par Brian Lee O'Malley, natif de la ville qui s'est plus inséré des détails très spécifiques dans sa bande dessinée. Voilà.
C'était une volonté pour, spéciale.
Ouais, c'était.
Je respectais.
Je pense que c'était aussi son coup de cœur. Voilà, enfin, on écrit toujours avec ce qu'il y a autour de nous et ce qui nous a influencé.
Oui, ouais, non, mais c'est une bonne idée en soi. Hein. Je trouve que c'est bien comme concept.
C'est une volonté du cœur, je pense, de vouloir intégrer sa story, quoi. Enfin, ouais,
ça donne du vrai.
Surtout dans les interviews de Brian Lee O'Malley qui sont à la fin des tomes, en fait,
oui.
Il explique qu'en fait, il a choisi. Dans Scott Pilgrim, il raconte l'histoire de sa vie, en fait, l'histoire de sa rupture avec sa copine de l'époque.
Ouais.
Et en fait, il raconte qu'il a choisi Toronto pour la raison, justement, d'ancrer son récit dans du réel, en fait. D'ancrer encore plus spécifiquement le récit dans ce qui s'est passé dans sa vie.
Ouais, il a pris vraiment des éléments réels de sa vie, en fait, et il les a légèrement modifiés, peut-être.
Oui,
Mais non.
Mais
il a fait une romance, c'est ça qui est beau.
Comme ça, il mélange le vrai et le faux.
En fait, il utilise son parcours personnel pour l'offrir au monde et voir si le monde est réceptif. Ça.
C'est tellement bien.
C'est ça.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Voilà pour.
T'avais d'autres questions de quiz ?
Non, voilà ce que j'ai pour les anecdotes. Juste les références à la pop culture, c'est le logo Universal au début du film qui apparaît avec une chanson 8 bits, vous savez, ce que je trouve très drôle. Et j'espère que vous avez regardé le générique jusqu'à la fin.
Oui.
Ouais.
Ah non.
Alors qu'est-ce qui se passe à la fin du générique ?
Demande à Thomas.
Non ? Vraiment, vous en revenez plus ? Non. Bah en fait, t'as le personnage de Scott Pilgrim qui apparaît et qui détruit le mot The End. Mmh. Voilà, en 4-5 coups et il y a des pièces qui apparaissent et voilà, après c'est la fin.
Oui, mais fallait remettre quand même parce que oui. J'ai toujours l'habitude de regarder des génériques. En fait, je me méfie des fins de films parce que quand on connaît les Avengers et on sait toujours qu'il faut rester à la fin. Mmh. Du coup, je me méfie de certains films. Il y en a, je me dis, reste à la fin, on sait jamais.
Et juste pour cette petite animation à la fin qui m'en rappelle.
Mais ça m'avait pas tant marqué que ça. C'est pour ça je l'ai regardé le générique, je m'en rappelle. Il y avait une musique sympa, mais...
Bah, oui, la musique des Sex Bob-omb ou la musique de Beck.
Mais...
Oui,
vas-y.
Mais oui, non, pour avoir une autre anecdote, en fait, c'est... faut savoir que dans le comics de Brian Lee O'Malley, en fait, il y a des notes de musique qui sont incorporées au comics, des vraies partitions, et ces partitions-là ont été réutilisées pour le film,
oui.
En fait.
Si tu sais les lire...
Quand le groupe Sex Bob-omb est en train de jouer,
c'est des partitions créées par Brian Lee O'Malley.
Parce que c'est vrai que mettre des partitions sur comics, en fait, si tu sais pas lire ce genre...
Ouais, mais en fait,
ça fait des notes.
Ça marche très bien par rapport
bien.
Dans le comics, même si on sait pas lire les notes, on comprend vraiment bien l'intonation, la volonté qu'il y a derrière ces notes-là, en fait.
Bah, je trouve ça bien, en fait, de la part de comment on appelle ça, le dessinateur.
Ouais.
Ouais, un dessinateur.
Si vous voulez, là, il y a Jolene qui me dit qu'on peut écouter un extrait de la musique.
Les Sex Bob-omb.
Ouais, on peut écouter les Sex Bob-omb, la première musique du début du film.
Ouais.
Vas-y, Jolene. Voilà, ce que j'adore, c'est qu'il y a une fille qui est batteuse dans le film.
Ouais, c'est énorme.
Ah, c'est trop cool.
Qui est sorti avec.
Qui est l'ex de Scott, justement.
Ouais. L'ex de Scott, donc Kim.
Il fait la gueule.
Ce qu'on peut retrouver aussi dans le film, ce sont les dessins de Brian Lee O'Malley. Ouais. Quand ils doivent affronter un groupe, t'as Stephen, je crois que c'est ça, le bassiste et chanteur du groupe.
Ouais.
Guitariste, pardon.
Guitariste.
Et il présente un paperboard avec vraiment ce qu'on retrouve dans le comics, c'est-à-dire les dessins de Brian Lee O'Malley présentant le groupe adverse, et j'adore.
Parce que oui, c'est Brian Lee qui dessine aussi son comics, en fait.
Oui, voilà, il dessine et il écrit. Donc ça, c'est vraiment cool.
J'aime bien ce concept, en fait. Du coup, Scott Pilgrim, c'est plus qu'un film sympathique, en fait. C'est une bonne entente, en fait, entre deux artistes.
Ouais,
et ça marche, en fait. Et on devrait voir ça plus souvent, entre guillemets, quand on a des adaptations d'œuvres, de comics. Ouais. Il devrait faire ça plus fusionnel, enfin je sais pas.
Ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment une adaptation qui marche vraiment bien.
Après, ouais, c'est un équilibre assez difficile à obtenir, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais ils avaient l'air de bien s'entendre,
ouais,
d'après ce que vous m'avez dit. Donc,
en fait, c'est souvent dans ces milieux-là, le problème c'est les égos de chacun, quoi. Ouais. C'est un monsieur qui gueule.
Qui aura la plus
grosse.
Ouais.
Le plus de casquettes, le plus de.
Ouais, je vois.
Bon, okay. Voilà. Bon, on se retrouve après pour la dernière partie de l'émission. Pour l'instant, on va écouter une petite musique.
Kali Kali Kali.
Et ouais, Kali 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 de Alissa Bernal.
Pour moi, c'est un chat, Kali.
Pour moi, c'est un chanteur, Kali.
Ah, oui,
c'est... Entendons, écoutons.
C'est vrai.
Écoutons.
Jusqu'à 23h, décryptons ensemble le cinéma. Bienvenue sur Indestar.
Et on se retrouve pour la dernière partie, c'est-à-dire les points actus et les sorties du mercredi. Et ou sinon, on va revenir sur un film du début d'année qui vous a marqué, dont vous aimeriez partager ou recommander le film, évidemment.
C'est drôle, parce que le film que j'ai vu cette année qui m'a marqué, bah, c'est Scott Pilgrim, alors.
Oui, t'en avais parlé.
J'en parle et j'en reparle.
Dans le dernier podcast.
Ouais.
Ce mercredi-là, il y a Sonic le film qui est sorti.
C'est vrai.
Ouais. Qui pense aller le voir ici?
Ah, j'hésite.
Moi, je pense que, ouais, là, pendant les vacances, je vais aller y aller parce que il y a Jim Carrey.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que j'allais dire.
C'est le seul élément valable du film.
Bah, il y a une tortue aussi à un moment.
Ah bon?
Ça a l'air cool.
Après,
Caroline de Boulayville.
Mais bon, non. Je trouve que quand même ils ont fait un effort aussi au niveau du design. Quoi.
Ouais, parce que parce qu'on a râlé.
Ouais, voilà, oui, voilà. Mais tu vois, ils ont fait l'effort d'écouter. Donc
ouais.
Je me dis,
bah, j'espère bien, que ouais. Ça va leur revenir.
Tu as fait partie des gens qui ont râlé?
Ah oui, clairement.
C'était le fer de lance, Thomas. Et du coup, ouais, t'es obligé de le regarder.
J'en fais partie aussi.
Mais clairement, le design qui s'est fait à la base.
Mais t'es moche. T'es clairement moche. Mais...
Alors, il y a les théories du complot, comme quoi ils l'auraient fait exprès pour créer le buzz. Puis faire genre, après, ils ont écouté la communauté, machin.
Je crois qu'ils se seraient pas fait chier à faire ça.
Sinon, pour parler un peu de film français aussi, il y a La fille au bracelet qui est sortie ce mercredi. Mm-hmm. Avec Roche Dizem. Anaïs Desmoustier, et le réalisateur c'est Stéphane Desmoustier.
Et Karam Australiani.
Et Karam Australiani, maintenant je sais qui c'est, hein, voilà. Qui est la fille de Catherine Deneuve. Qui joue dedans.
Ah.
Est-ce que Thomas, tu te souviens de l'histoire? La fille au bracelet?
Oui, alors.
Une fille qui est au tribunal.
C'est ça. En fait, on suit le jugement d'une fille, alors je sais plus le nom par contre.
Non, c'est pas grave.
D'une fille, en fait, qui est accusée d'avoir tué son meilleur ami.
Ou sa meilleure amie.
Sa meilleure amie, voilà. Sa meilleure amie, parce que celle-ci l'aurait filmé en train de...
Non, c'est sûr, il y a un film, mais elle l'a diffusé.
Ah oui, parce qu'elle
Internet.
A diffusé le film d'elle en train de bombaise un mec. Voilà.
Ah, une sextape.
Voilà. Ouais.
Cool.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Et du coup, il y a toute la question de savoir si est-ce qu'elle l'a tué, est-ce qu'elle l'a pas tué, machin.
Je sais pas, on va revenir là sur un film qui est sorti la semaine dernière et qui s'appelle The Gentleman.
The Gentleman.
Thomas, il est très content parce que on l'a vu la semaine dernière.
Et il est bien.
Ouais, il est super. Le nouveau film de Guy Ritchie.
Et ça parle de quoi du coup?
Ah bah, Thomas, je te laisse en parler aussi. J'en ai parlé la semaine dernière.
Ok.
Ouais.
Le Gentleman, c'est quoi le Gentleman? C'est très compliqué à résumer, mais en fait.
Non, c'est quelqu'un qui a le marché de drogue et sa production de marijuana, mm-hmm. et qui va arrêter en fait, et qui cherche quelqu'un pour reprendre l'affaire. Et ce quelqu'un, c'est un autre marchand quoi, qui va faire en sorte de baisser le coût de son entreprise pour pouvoir la racheter à bas prix. Et d'accord. T'as quelqu'un d'autre aussi qui essaye de racheter son entreprise. Enfin, voilà, ça va créer des conflits.
C'est une concurrence pour racheter.
Et en fait, c'est toute cette histoire, tu la suis grâce aux personnages de Hugh Grant et Charlie Hunnam qui sont en train de parler de cette histoire justement. Donc, t'as une mise en démine de l'histoire.
C'est vraiment cours de Sherlock Holmes, quoi. C'est Sherlock Holmes et Moriarty.
Et du coup, c'est quoi
The Gentleman.
The Gentleman.
C'est facile à retenir.
Mais ce film est passionnant en termes de montage. Hein.
Évidemment, moi, je suis très content.
C'est Guy Ritchie.
Guy Ritchie, ouais. On retourne à Snatch qui est sorti en 2000 avec Brad Pitt.
Bah, de toute façon, c'est un peu la particularité des films anglo-saxons, quoi. C'est qu'en fait, soit on va avoir du film historique, un peu à Les Filles du Docteur March qui est sorti récemment, ou sinon on va avoir du film très dynamique, très rythmé. Galam rigole.
Quand vous dites au niveau du montage, en gros, c'est parce que l'histoire est décousue, parce qu'il la raconte en même temps, du coup, il y a des passages que ça saute.
Bah,
mais...
C'est pas ça, mais c'est que c'est très bien narré, tout simplement. On se perd pas durant l'histoire.
D'accord.
En fait, tu vois, c'est ultra dynamique, mais en même temps, ça reste très très clair. Et ça utilise des procédés de montage, donc comme ce qu'on va appeler des panoramiques concentrées ou un truc du genre.
Des travelling compensés.
Non, pas des travelling compensés, panoramiques entrelacées. En fait, c'est des genres de fouets en fait, et qui permettent d'un coup de passer d'une situation à une autre sans se perdre. Et c'est le genre de trucs qu'on retrouve énormément dans le cinéma anglo-saxon, Edgar White, Guy Ritchie, ainsi de suite. Et du coup, c'est vraiment passionnant.
Je pense que ce qui fait que je suis entré directement dans le film, c'est le générique du début.
Oui, aussi.
Avec une super musique et le montage de ce générique, quoi.
D'accord.
Je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller regarder.
Ça me fait penser à un petit truc. J'ai regardé la série The Witcher là récemment.
Ah oui.
Et ben, en fait, oui et non. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, en fait, t'as du mal à faire l'histoire. En fait, tu comprends qu'à partir de certains épisodes, qu'en fait, ils parlaient dans plusieurs époques.
Ouais, elle est compliquée à comprendre au premier abord.
Elle est impossible à comprendre, en fait. Dès le début, tu ne peux pas comprendre. Bah, après, faut attendre au bout d'un moment.
Est-ce que tu la regardes juste parce que c'est Henri Cavill?
Non. Non, je la regarde parce que j'ai acheté le jeu Witcher 3.
Okay. Moi j'ai joué à la saga et puis j'ai regardé l'OST sur.
Et du coup, est-ce que t'avais compris?
Non. Non. C'était vraiment. Pourtant, j'ai joué à la saga, j'ai suivi l'histoire correctement.
Il aurait peut-être fallu plus d'indices pour dire que. Voilà. Et là, au moins, on aurait pu comprendre qu'il y avait plusieurs époques. Mais...
Personnellement, justement, je me suis retrouvé un peu perdu à un moment. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool, en fait. C'est qu'à un moment, tu te sens un peu perdu, un peu comme le personnage. Et
bah oui, il est vieux. Enfin, ils peuvent vivre pendant très longtemps.
Ouais, ça, mais du coup,
ouais, c'est pas faux.
Merci. Du coup, tu te retrouves un peu perdu, mais au final, à un moment, tu comprends tout, tu mets tout en lien, et là, d'un coup, t'as un genre de décharge d'adrénaline.
Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?
Petit bâtard.
De rien.
D'accord.
Donc, pour terminer, il y a aussi le film hashtag Je suis là qui est sorti la semaine dernière avec Alain Chabat, qui découvre l'univers des réseaux sociaux et qui part en Corée du Sud.
C'est quoi le rapport?
Voilà.
Tout
simplement.
Il y a une fille, je crois, là-bas qui le.
Mais il commence à discuter avec une Coréenne là-bas.
Ah oui, d'accord. Et il part. Ah oui, d'accord.
Et à un moment, dans la bande-annonce, tu entends je pars en Corée du Sud voir les cerisiers.
Lol.
C'est tout.
D'accord.
Voilà. T'as dit, toi, t'avais une actu?
Oui, concernant Alita. Oui. C'est un film. C'est pas Battle of Angel qui s'appelle?
Oui,
c'est ça.
Et ben, en fait, il y avait un 2, parce que c'est Disney qui a sorti Alita. Et en fait, il y avait peut-être un 2 qui aurait pu être fait, mais ils hésitent à le faire encore. Ils sont pas très certains. Et du coup, il y a des gens du peuple. Oui, voilà. Ils sont en train de tout faire. Ils font des pétitions et tout ça pour qu'il y ait un Alita 2 qui voit le jour.
Ouais, surtout que ça serait complètement. Enfin, c'est ultra bizarre qu'il n'y ait pas d'Alita 2 déjà dans les bacs, alors que la fin d'Alita 1er, clairement,
tease
c'est...
Un 2,
voilà. Il y aura un 2.
Et ça a quand même bien marché, le 1. Donc,
il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de 2. Le grand méchant derrière ses lunettes, hashtag Edward Norton.
Et surtout que c'est James Cameron qui est aux manettes, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est vraiment bizarre, cette nouvelle. Enfin,
ouais,
je comprends pas trop ce que fait Disney en ce moment, en fait. J'ai l'impression
c'est comme les Uncharted aussi. Il y a un film, là, qui est en... Avec Nathan Drake, là, où il y a au moins le sixième réalisateur.
Oui, c'est ça. Donc, ouais,
ça
il y a le cinquième.
Ça peut marcher. Ça peut marcher normalement.
Il y a la suite du jeu.
Oui, aussi. Oui, aussi. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais oui, effectivement. Mm. Voilà.
C'est ok. C'est tout pour toi, Jolan. Peut-être que tu en as.
Ouais, il y a Sans un bruit 2 qui va sortir.
Oui.
Bientôt, là.
Ah oui.
Ouais. Je sais que toi, t'es pas forcément fan, mais je sais pas si t'as vu le premier.
Alors, j'ai pas. Enfin, en fait.
Parce que c'est l'un des acteurs de la série The Office qui réalise.
J'ai pas vu le premier, mais j'en ai pas entendu beaucoup de bien.
Bah, moi, je t'avoue que j'ai vu le premier, j'étais un peu déçu. Franchement.
Moi, j'aime beaucoup le concept. Bah, après, les acteurs,
en fait,
je trouve pas forcément convaincants. Surtout les jeunes.
Je crois que c'est sympa.
En fait, le concept donne vraiment envie, mais après, derrière, je sais que les retours que j'ai eus, c'est des on est déçu parce qu'au final, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on voulait.
Ah,
c'est, voilà.
Ça sera toujours 50-50. Hein,
ah, si, il y a un autre film aussi que vous avez vu récemment et que vous pouvez peut-être nous faire un petit retour.
Birds of Prey.
Évidemment.
Je te laisse cet honneur.
Non, mais les dames d'abord.
Je n'en ferai rien.
Ça sent mauvais quand ils sont comme ça. Ça veut dire qu'ils sont un peu déçus.
Ouais, parce que tout à l'heure, j'envoyais une image, avant que l'émission commence, j'envoyais une image par message à Thomas.
Ouais.
Où c'est Dragon Ball Z, c'est Vegeta et Son Goku qui sont.
Ah oui, désert.
On va se battre. Allons nous affronter dans un endroit vide et ils sont dans une salle de ciné où il y a la projection de Birds of Prey, il n'y a personne.
Oui, parce qu'il faut savoir que c'est l'un des. C'est un très mauvais lancement qu'il y a eu de Birds of Prey, vraiment. C'est clairement pas ce qu'ils attendaient, donc c'est mal barré pour les sorties en salle. Et clairement, en termes de qualité, en plus, le film n'est vraiment pas au rendez-vous, quoi. Déjà, on appelle ça Birds of Prey, mais récemment, le pire, c'est qu'il a été renommé Harley Quinn.
La fabuleuse
histoire d'Harley
Quinn. Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, le lien qu'on peut faire avec le film dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a Marie-Elisabeth Winstead qui joue dedans, qui est l'interprète de Ramona.
Et c'est là qu'on comprend ce qu'est un bon réalisateur et un mauvais réalisateur.
Ouais. Mauvaise direction d'acteur, je
c'est
pense.
Ça. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est le film, mais vraiment pas ouf, quoi. Et encore une fois, DC veut mettre la charrue avant les bœufs et ça marche pas, en fait.
Ils ont du mal quand même.
En plus, c'est idiot parce que dans le film, il y a un duo qui marche bien, celui de Harley Quinn et de la petite. Et en fait, c'est un duo qu'on aurait aimé voir.
C'est pas assez développé.
Ouais, qu'on aurait aimé voir beaucoup plus développé. Et c'était, ça aurait été vraiment intéressant de voir ce développement là. Mais
ouais, c'est pas faux.
Tu m'as fait peur.
Allô.
On s'y attend pas.
Petit bâtard.
Ouais, je.
Enfin voilà, du coup, je ferme ma gueule. Y'a pas de problème.
Ouais, c'est pas
vrai. Parce que du coup, c'est ce que j'allais vous dire. Ça marche peut-être pas. Mais moi, je suis fan d'Harley Quinn, du coup, depuis qu'on l'a vu. C'est quoi? Non, on va pas se voir, et puis même, j'aime bien.
Et Harley Quinn en comics, c'est incroyable. Il est vraiment passionnant.
Voilà, c'est ça. DC en comics, ils sont légendaires.
Ouais, clairement.
Par contre, en film, ils galèrent en vrai.
Ouais, malheureusement, voilà. Ils sont pas là. Ils sont. En fait, le problème.
Ils ont
c'est
tout
que...
raté.
En fait, c'est que ils ont voulu copier
Avengers.
Marvel. Mais le problème, c'est que ça marche pas parce que vu qu'il y a déjà Marvel, vouloir copier Marvel.
Ils arrivent
ça,
après ou alors ils lancent ça. Pas.
Et ça marche pas. Ils devraient partir vraiment sur. On pose nos balls sur la table, on fait ce qu'on veut.
Ils devraient pas se mettre.
DC Comics pur et dur.
Ouais, ce que je comprends pas trop de pression. Ce qui a été faire Ewan McGregor là-dedans. Il joue le antagoniste du film.
Oui,
d'accord.
Le méchant.
Et c'est un film qui se veut féministe, mais qui en réalité est faussement féministe, tellement ils mettent de place à l'écran pour l'antagoniste masculin, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu vois, c'est qu'ils ont, ils disent, ouais, on est féministe et tout, mais en réalité, genre, dans les trois quarts des plans, on a l'antagoniste masculin. Alors que, genre,
c'est lui qu'on voit le plus.
Ouais. C'est ça. Alors que le but, justement, c'est de voir,
Harley Quinn, la fabuleuse assistante.
C'est ça, de voir les
acteurs. Je veux voir un film d'Harley Quinn, moi, pas.
Ouais. De voir
moi,
les
j'ai
personnages.
Un peu peur qu'ils nous perdent non. aussi dans l'histoire parce que, voilà, tout de suite, avant qu'on entre dans la salle, Thomas me dit, je suis sûr qu'il y aura de la voix off dès le début, et c'était le cas. Et elle se permet de nous raconter l'histoire dans le sens qu'elle veut. Et j'ai un peu peur que ça perde le spectateur au niveau montage, tu vois, parce qu'il veut dire « Ah oui, tiens, en fait, je vous ai pas raconté ça, donc on va revenir avant. »
Ça, tu vois, je comprends dans le sens
okay,
où...
Ok, c'est vachement original, mais...
Je comprends dans le sens où c'est la psychologie d'Harley Quinn, ouais, voilà. Complètement what the fuck, etc. Mais le problème, c'est que déjà, c'est pas tenu tout le film, et de deux, donc c'est un peu bizarre, en fait. On se dit « Bah, pourquoi l'avoir fait au début, mais pas avoir poursuivi cette volonté ouais. tout le
à
film ?»
À la fin, même, ça aurait été un peu plus marquant de dire « Ah bah tiens, j'ai oublié ce détail, et dire « Bah, pourrait y avoir une suite, tu vois. »
Ça, et ou sinon, genre, à la fin, dire mais en fait, je mentais, tu vois, parce que c'est Harley Quinn, tu vois. Et
je sais
genre,
pas qu'il y a un gros plot twist à la fin.
C'est
quoi.
Ça, et
je pense que ça aurait bien marché.
C'est vrai que ça collerait bien au personnage.
Et c'est con parce que, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on sent du potentiel gâché, encore une fois, quoi.
Bah ouais.
C'est comme avec la Justice League, c'est pareil. Bah,
tu sens que c'est
gâché,
la prod qui dirige tout, quoi.
Ça fait mal, ça, ouais. Ça.
C'est ça qui est fait chier, quoi.
Ah, quand même, j'ai bien aimé DC, mais c'est tout.
Mais voilà. Sinon, bah, y a un super casting là pour le prochain film de David O. Russell qui a notamment réalisé Happiness Therapy avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Et là, il y a Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie et Michael B. Jordan qui vont rejoindre le casting de son prochain film. Je suis très content.
Très beau casting.
Ouais, ça fait un beau casting. Et puis sinon, pour un des derniers points actus, c'est que la chanteuse Billie Eilish fera le prochain générique du James Bond demain.
Ça risque d'être...
Mourir peut attendre.
C'est intéressant.
Ça va être vraiment sympa.
Ouais.
Et n'hésitez pas à aller voir la cover qu'elle a fait de Yesterday aux Oscars, qui est magnifique.
Très émouvant.
D'accord.
Elle est dispo sur YouTube.
Ouais. Oui. Ouais, enfin, vraiment,
tout est dispo.
Parce que j'adore Billie Eilish.
D'accord.
Bah, merci en tout cas d'avoir participé. C'est la fin de cette émission. Vous voulez faire des bisous peut-être, embrasser quelqu'un.
Fait
toujours des bisous.
Oh la question. Ok.
On fait des bisous puisque c'est la Saint-Valentin. Okay, ouais. On embrasse au moins nos mamans.
Oh. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien ça. C'est une question en traître en vrai ça.
Waouh, il embrasse même pas son fils quoi.
Waouh. Il voit son père tous les jours. Il a pas besoin de bisous. J'ai joué avec lui juste avant de venir. Je peux vous dire que là il doit dormir, mais comme ça, une masse le bordel. Voilà, ouais. C'est tout.
Non, Thomas, tu t'embrasses.
Les bisous à ta mère.
À mon chien.
Ah, à Newt. Son chien s'appelle Newton.
Okay.
Un peu taré d'ailleurs, mais.
Oh, oui, mais
un peu dynamique, surexcité.
C'est ça.
Julian aussi, peut-être.
Bah, moi, sûrement mes parents qui m'écoutent.
Ouais, pareil, mes parents aussi qui m'écoutent.
Tout
Bon, ouais, je vais faire mon fils, hein, parce que...
Il ne t'écoute pas.
Merci, merci les gars d'avoir été avec moi ce soir sur Krypton. Surtout à toi, Thomas, d'être venu en tant que spécialiste. Je ne t'ai pas invité par hasard pour cette émission.
Toi, t'as été remercié pour ce spécial.
Donc sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, dès 22h, avec un nouveau film à découvrir. En attendant, vous avez le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes pour écouter et partager l'émission. Puis on vous souhaite un bon week-end.
C'est ça. Des bisous.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.